Vous écoutez RTL.
RTL, il est 14h03. Bonjour Anaïs Bouton, bonjour Thomas Hugues.
Bonjour Christelle, je ne sais pas si vous nous voyez sur un écran de contrôle ou si
non,
vous
mais j'entends que vous avez un gros rhume.
Non, alors je suis en pleine forme, non, j'ai un pull de rhume. C'est-à-dire j'ai un magnifique pull de Noël offert par Anaïs Bouton qui est raccord avec le décor de nos, nos écrans de contrôle qui font tomber la neige depuis plusieurs jours. Bref, il y a de l'ambiance dans le studio de l'actualité.
Ah,
venez,
venez
toucher mon pull, il y a un pompon rouge, ça porte bonheur comme pour les marins.
Vous faites le concours du pull moche?
Exactement, on est un peu en avance. Normalement, c'est vendredi, mais on est en avance.
D'accord.
Salut Anaïs, comment ça va?
Eh ben, ça va super bien.
Merci pour ce cadeau.
Oh, ben, je vous en prie.
Enfin, je vais devoir le porter toute l'émission, ça va être rude. Hein, quand
vous
même.
Savez de quoi on va parler aujourd'hui?
Oui, bien sûr, bah,
alors,
j'ai un peu préparé
exemple,
quand même. Vidocq.
Ah ouais. Vidocq, voilà un nom qui sonne comme une légende. Roi de l'évasion, devenu premier flic de France, séducteur, cultivé, bagarreur hors pair. Ben, un destin comme on les aime. Hein. Dans notre curiosité, Vidocq est à nouveau à l'honneur au cinéma. Mais il reste une énigme. Avant d'aller voir le film avec Vincent Cassel, Thomas, Vidocq s'invite dans notre cabinet de curiosité vers 14h30.
Et tout de suite, notre premier thème de curiosité, les coulisses des aéroports, tout ce que vous ne voyez pas quand vous prenez l'avion.
Tour de contrôle, j'écoute.
Isabelle, tour de contrôle, qu'est-ce qui se passe?
Rien, négatif, c'est un tout petit accrochage entre l'avant de l'appareil et le sol.
Mesdames, messieurs, le vol Air Curiosité numéro 181-218 partira de la porte RTL.
Pierre Vassiliou, Nicole Ferroni avec son sketch Travail à l'aéroport pour lancer cette séquence. Et comment vous dire que nos invités, Perrine Duglet et Régis Lacote, ont l'air un peu inquiets en voyant cette mise en onde. Mais non, tout va bien se passer dans l'émission. On apprend des choses dans la mode une heure et vous allez nous faire découvrir les coulisses de ces aéroports. Perrine, vous êtes responsable d'exploitation à Roissy. Régis, vous êtes directeur de l'aéroport d'Orly. On va, grâce à vous, découvrir ce que les plus de 100 millions de passagers, je crois, à vous deux, qui ont emprunté ces deux aéroports, ne soupçonnent pas. Tiens, par exemple, je dépose ma valise juste après l'enregistrement. Qu'est-ce qui se passe? Perrine Duglet, je commence avec vous.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, quand vous déposez votre valise, en fait, à l'enregistrement, vous avez un agent de la compagnie aérienne qui va mettre une étiquette sur votre valise.
Ça, on le voit.
Voilà. Cette étiquette, elle a un code barre et c'est la carte d'identité, en fait, de votre bagage. C'est ce qui va permettre de savoir qui vous êtes, où vous habitez, mais aussi où doit aller la valise. Donc, une fois qu'elle part sur le tapis à l'enregistrement...
Là, nous c'est le trou noir, là. On ne sait plus ce qui se passe.
Voilà.
Ah, ma valise!
Mais alors après, c'est organisé, heureusement, et on a un système de tri-bagage. Donc, en fait, votre valise, elle va descendre sur des grands toboggans. Elle va être scannée. Donc, on va lire, en fait, l'étiquette qui est sur la valise. Et du coup, le système va pouvoir détecter automatiquement à quel endroit votre valise va être amenée avec les autres valises qui doivent partir sur le même vol.
Mais ça veut dire que sous nos pieds, dans les aéroports, il y a ces tapis roulants, là, pour les valises?
Exactement. En fait, sous vos pieds, quand vous arrivez à Roissy, vous avez à peu près 60 km de convoyeurs bagages.
On appelle ça convoyeurs bagages.
Oui, on appelle ça convoyeurs bagages. C'est des systèmes de grands toboggans qui, tous les jours, font transiter les 100 000 bagages qui arrivent à Roissy. Il y a à peu près 200 000 passagers à Roissy par jour et la moitié de bagages. Voilà.
Le bagage est surveillé par des humains ou par des machines?
Alors, c'est un mix, en fait, puisque vous avez des machines à l'intérieur du tri-bagage, donc qui vont lire votre étiquette, mais qui vont aussi contrôler votre bagage, puisque il y a des mesures de sécurité et de sûreté qui sont très importantes, et 100% des bagages qui sont déposés dans nos systèmes sont scannés.
Vous avez... Même tous ceux qui vont en dessous, tous les bagages, ils passent quoi, 100%. Dans un sous-importique
ou... 100%, vous avez des scanners, vous avez des X-rays, et on investit même d'ailleurs dans des technologies de plus en plus performantes pour essayer de déceler tout ce qui doit être interdit dans vos
c'est
bagages.
C'est quoi, par exemple, ce qui est interdit, vraiment proscrit?
Tout ce qui est inflammable, tout ce qui est gaz, tout ce qui est évidemment explosif, ça paraît du bon sens.
Les aérosols, ça on n'y pense pas forcément quand on fait sa valise.
Exactement, ça peut, si surtout vous en avez plusieurs dans votre valise, ça peut, on peut avoir des réactions chimiques, voilà. Donc on a des équipements qui surveillent tout ça. Et puis évidemment, vous avez une surveillance humaine, parce que si jamais il y a quelque chose, la machine détecte quelque chose de suspect dans votre bagage, il y a une intervention humaine in fine pour qu'une levée de doute et on peut aller jusqu'à ouvrir la valise.
Une levée de doute, oui.
Tout à fait, et faire intervenir la police.
Et là, son bagage, on le revoit
jamais.
Plus tard.
Voilà, dans très très longtemps.
Dans très très longtemps. Régis Lacote, c'est pareil dans tous les aéroports. La hantise du voyageur, c'est de ne pas voir son bagage réapparaître sur le tapis roulant quand il s'est posé dans sa ville de destination. Tiens, est-ce que ça arrive souvent? C'est quoi les pourcentages de bagages perdus?
Alors, fort heureusement, ça arrive très peu.
Ouais.
C'est moins d'un bagage pour 1000 en fait qui est égaré. Bien souvent, en fait, on le retrouve, hein, puisqu'en fait, le bagage, soit il n'a pas été chargé à bord de l'avion, soit il est parti sur une mauvaise destination. Et finalement, bah, on arrive à réconcilier le passager et le bagage le plus court possible. Et là, on va dire, il y a plusieurs personnes qui se mettent en œuvre pour justement leur permettre de se retrouver et l'un et l'autre.
C'est quoi le... Parce que effectivement, un bagage, il peut se retrouver à l'autre bout du monde. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a ce code-barre, j'imagine, qui sert à le tracer.
En fait, quand il va arriver à l'autre bout du monde, eh bien, il va y avoir des agents de la compagnie qui vont bien découvrir un bagage sur un tapis que personne n'aura pris. Et ben, en fait, ils vont se dire, mais en fait, ce bagage, pourquoi il est encore sur le tapis ? Soit c'est quelqu'un qui a oublié de le prendre, soit en fait il arrivait à une mauvaise destination. Et là, effectivement, ils vont mener une enquête au travers des éléments qu'ils vont pouvoir trouver, donc l'étiquette, bien souvent. Et cette étiquette va permettre, en fait, dans un système qui est commun à l'ensemble des compagnies aériennes, de pouvoir tracer d'où venait le bagage initialement et où il devait aller.
Et si on perd l'étiquette ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, si on perd l'étiquette, alors là, on rentre dans
c'est un
travail de Sherlock Holmes. Ouais. On va rentrer dans un travail d'investigation plus profond. On peut même être amené jusqu'à ouvrir le bagage pour trouver des informations, soit parce que la personne aura laissé des effets personnels à l'intérieur qui permettraient de savoir quel était son nom et à qui il appartenait. Ou alors, il a laissé une carte de visite. Hein. Une bonne façon de faire, c'est de laisser sa carte de visite dans une poche accessible sur le bagage.
Un joli pull de Noël avec un reine de Noël
en forme de pompon, ça le fait pas. Voilà. Ceux qui nous rejoignent et qui ne comprennent pas ce que je dis, il faut regarder l'émission sur rtl.fr. Tiens, justement, à propos d'accoutrement, est-ce que vous laissez... est-ce qu'il faut être un peu habillé quand même pour monter dans un avion ? Est-ce qu'il y a un code vestimentaire ?
Alors, prendre un avion nu, c'est un peu étrange.
D'accord, oui, ça, ok.
Voilà. Ça, Thomas en rêve, mais
il
tentait
plus,
l'expérience.
Non plus, mais les enterrements de vie de garçon, les accoutrements extravagants.
Non, il n'y a pas de problème. Enfin, les compagnies les acceptent sans difficulté. Ouais. Moi, en partant de Roissy récemment, j'ai vu effectivement des jeunes partir pour Barcelone à un enterrement de vie de garçon, maquillés. Voilà. Non, il n'y a pas de dress code particulier.
Bon, je garde mon pull de Noël.
Un aéroport, c'est une ville, on l'a dit à l'heure, et on va découvrir ça. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui travail et certains vous surveillent discrètement. À tout de suite.
RTL.
Vous êtes Odile Doré ?
Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. C'est moi.
Ah, je suis envoyé par l'agence Security.
Et vous êtes ?
À l'aéroport.
Le commandant Thomas Hugues et sa copilote Anaïs Bouton vous souhaitent la bienvenue à bord de ce vol Air Curiosité.
Ah, c'était Chantal Lobby, Alain Chabat dans
la série. Là, c'était pas la voix de Chantal Lobby. J'aimerais bien savoir qui a enregistré ce message.
Oui, on aimerait bien savoir.
Oui, François Touchard, notre réalisateur, ne veut rien dire, même sous la torture.
Alors, les vacances démarrent vendredi pour des millions de Français. Vous allez donc, les curieux, être nombreux à prendre l'avion.
Nous, on l'espère pour vous, en tout cas.
On vous ouvre les coulisses de deux grands aéroports parisiens avec Perrine Duglet, responsable d'exploitation à Roissy-Charles de Gaulle, et Régis Lacote, directeur d'Orly. Alors, est-ce qu'il y a un pic, un moment de stress pour les passagers dans l'aéroport ?
Alors, il y a plusieurs phases de stress, en fait. C'est déjà la première question que se pose un passager, c'est dans combien de temps je vais arriver à l'aéroport. Et puis la deuxième question, c'est dans combien de temps je vais être en salle d'embarquement, et surtout, est-ce que je vais être en salle d'embarquement suffisamment à l'heure pour prendre mon vol. Donc, le stress du passager, il tombe à partir du moment où il a passé toutes les étapes de contrôle qui sont préalables à votre arrivée à l'embarquement.
Donc, le contrôle sécurité, la valise qu'il faut ouvrir, les surchaussons, surchaussures qu'il faut mettre, tout ça, c'est un peu le pic de stress. Quoi.
Exactement. Vous avez le contrôle de police, voilà, vous avez deux contrôles en fait, principalement, contrôle de police et puis le contrôle effectivement qu'on appelle de sécurité, où là on vous demande de mettre votre valise de cabine dans une bannette, d'enlever votre manteau, etc. Donc pour essayer de lever ce stress, on a fait beaucoup d'efforts. Et,
c'est interminable
Non, pas, enfin, on a effectivement des saturations, mais on s'améliore.
Et ils sont pas forcément les mêmes d'un aéroport à l'autre, les contrôles de sécurité. Est-ce qu'il y a une norme ou est-ce que chacun fait un peu quand...
Des fois, mes chaussures, elles passent le bip aussi. À l'aller et pas au retour.
Ou les ceintures.
En fait, en Europe, les contrôles, ils sont standardisés. Donc en fait, ils sont homogènes d'un aéroport à un autre. À l'international, après, dans les pays étrangers, après, chacun définit ses standards de contrôle. Néanmoins, ils doivent répondre en fait à des recommandations et des normalisations internationales. Mais après, il peut y avoir plus ou moins certains aspects qui sont contrôlés à un moment, en fonction des menaces propres à un pays ou à une zone. Ils vont axer des contrôles renforcés sur telle ou telle partie de la personne.
Perrine Duglet, vous disiez, on s'est amélioré, on va plus vite. Comment vous avez fait ?
Bah déjà pour les contrôles de police, on a travaillé avec la police, on a eu des renforts de policiers l'été dernier, donc ça aide évidemment à fluidifier les contrôles. Pour le contrôle de police, on déploie aussi des sas paraf. Alors si vous avez pris l'avion récemment à l'aéroport, que ce soit Orly ou à Roissy, vous avez dû les voir, ce sont des sas, vous déposez votre passeport, vous avez des portes qui s'ouvrent et en gros vous mettez ou votre doigt parce que vous êtes reconnaissable via votre empreinte digitale, et on passe aussi à la reconnaissance faciale. Donc là,
ça y est,
exactement.
Parce qu'on en parle, on n'arrête pas de dire en Chine, en Corée, on est reconnaissance faciale.
Non, à Roissy, Orly, aujourd'hui, vous pouvez passer en reconnaissance faciale. Et ça aussi, vous mettez 10 secondes en fait pour passer les contrôles, et c'est un gain de temps phénoménal.
En fait, on a réduit les temps de contrôle par deux. Depuis qu'on est passé à la reconnaissance faciale.
Et la sécurité, c'est évidemment une obsession dans tous les aéroports. Il y a une partie visible que vous décrivez, les portiques, les contrôles. Mmh. Et puis, il y a aussi ce qu'on ne voit pas. Il y a des agents en civil dans les aéroports, ou comment ça se passe ?
Alors oui, effectivement, on a fait évoluer les formations de nos agents, hein, et plus globalement de l'ensemble des personnels de l'aéroport, élever le niveau de vigilance en fait par rapport à ce qu'ils peuvent regarder. Chacun est acteur en fait de la sécurité de l'aéroport, et il y a des agents qui sont plus particulièrement formés à l'analyse comportementale et qui vont être aussi bien en zone publique qu'en salle d'embarquement, à regarder s'il y a des choses qui attirent leur attention, et le cas échéant, s'ils voient un comportement chez quelqu'un qui attire leur attention, eh bien, ils peuvent le signaler aux forces de l'ordre.
D'accord. Donc ils sont formés spécifiquement.
Ils sont formés.
C'est pas des policiers, c'est du personnel.
Ils sont formés
de
spécifiquement à l'analyse comportementale.
D'accord. Bon, on va passer. On a parlé beaucoup de sécurité. On disait un aéroport, Orly, Roissy, c'est une ville, des dizaines de milliers de personnes qui y travaillent. Alors spontanément, j'allais dire les métiers les plus représentés, sont ceux du commerce. Est-ce que je suis dans le mille ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque?
Alors on reste un aéroport, donc les métiers les plus représentés, c'est les métiers des compagnies aériennes.
D'accord. Voilà. C'est logique, ouais.
Donc sur Roissy, vous avez 152 compagnies aérienne. Mmh. Donc voilà, ça représente quand même la majorité des personnels qui travaillent sur l'aéroport. Roissy, c'est 90 000 personnes qui travaillent chaque
90
jour.
90 000,
tout à fait.
Et Orly, c'est une 30 000 salariés qui travaillent chaque jour.
Roissy, c'est un des plus gros aéroports d'Europe.
Oui, on est deuxième, juste derrière Londres. Oui.
Voilà. Et bientôt, on sera premier avec le Brexit.
Ah ben voilà, le discours est bien rodé. Donc d'abord, les métiers des compagnies aériennes, effectivement, c'est cohérent. Est-ce qu'il y a des métiers auxquels on ne pense pas? Métiers un peu saugrenus, ou en tout cas qui ne viennent pas comme ça spontanément dans notre esprit, à nous, et que vous connaissez bien et dont vous avez l'habitude.
Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en tout cas, on a un service médical d'urgence à Roissy. Et voilà, donc on a des médecins qui travaillent en permanence à l'aéroport. Mmh. On a aussi des aumôniers, puisque Orly a une chapelle, on a des lieux de culte en fait à l'intérieur des aéroports, donc chaque confession en fait est représentée, et on a plusieurs offices par jour, donc vous pouvez assister à des messes à l'aéroport. Et puis vous parliez des commerces tout à l'heure, on a des métiers qui sont spécifiquement liés à la restauration, aux boutiques, on a des sommeliers par exemple qui travaillent aussi tous les jours à Roissy pour vous conseiller dans vos achats en vin.
Ben voilà, il y a tout, pour toutes les nourritures terrestres, spirituelles, tout va bien.
Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas de trèfle sur la pelouse des aéroports?
Alors moi, je le sais, Anaïs, parce que vous me regardez, parce que j'ai préparé l'émission, mais peut-être que nos auditeurs ne le savent pas.
Eh ben oui, cette réponse surprenante, juste après la pause, même si Soma c'est tout, sur RTL.
RTL.
Juste, petite précision, c'est un vol un peu spécial.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Parce qu'il y a 31 détenus de la prison de Bourgogne qui vont voler avec vous.
La curiosité est un vilain défaut.
Donc vous serez à côté d'un détenu. Hein.
Pas d'autre siège, je ne sais pas. Non, hein.
Vous voulez que je vous mette dans la soute ? Toute ma vie, j'ai
rêvé d'être une autre. François Damien, c'est une de ces caméras cachées à l'aéroport. Effectivement, c'est très drôle. Et ça fait rire aussi nos invités, c'est bien, ils ont un peu d'autodérision. Perrine Duglet, qui est responsable d'exploitation à Roissy, et Régis Lacôte, qui est le directeur d'Orly. On a plein de questions curieuses sur les coulisses des aéroports, et notamment sur tout simplement le plein des avions. Ça peut sembler idiot, mais comment on fait le plein des avions ?
Alors, le plein des avions, déjà, il faut avoir en tête que le kérosène, il vient du Havre, hein, par un grand tuyau, un oléoduc, et il est poussé depuis le Havre jusqu'à Paris-Charles-de-Gaulle et à Paris-Orly, sur deux dépôts.
C'est quoi, un pipeline?
C'est un pipeline, en fait, voilà. Et après, ce pipeline, il se poursuit, en fait, sous l'aéroport, et en fait, il débouche sur chacun des postes avions. où ensuite il y a un camion qui vient se garer en fait sur le poste avion et qui connecte en fait le réservoir de l'avion en fait à cette extension du pipeline.
Donc les tuyaux vont jusqu'aux avions.
Les tuyaux vont juste
sous le sol. Attendez, parce que moi je vois des camions citernes à chaque fois quand je monte dans mon avion, je regarde. Parfois il y a le plein qui fait sur un avion à côté. Il y a un camion citerne. Il sert à quoi ce camion citerne?
Alors le camion citerne que vous voyez à Orly et à Charles de Gaulle, c'est ce qu'on appelle un oléoserveur. En fait, c'est un camion qui va compter en fait le produit qui va être chargé à bord de l'avion et en fait, il fait juste passer le produit du réseau, enfin du pipeline, en fait, aux soutes de l'avion.
Et ça fait beaucoup réservoir. En volume de kérosène?
En volume de kérosène, c'est considérable. C'est pour Paris Charles de Gaulle, c'est 15 millions de litres de kérosène qui sont ainsi chargés à bord des avions tous les jours.
15 millions par jour?
Oui, si on devait les charger avec des camions classiques, hein, qui font 20 000 litres, ceux que vous, justement, dont vous parliez, c'est plus de 1000 camions par jour qu'il faudrait pour alimenter la plateforme.
Eh ben, heureusement qu'ils ne sont pas sur nos routes. On voit de temps en temps les aéroports parisiens qui sont paralysés par le froid. Là, c'est plutôt clément cette année.
Alors, le démarrage de la saison est pour l'instant clément. Maintenant, la saison hivernale, elle va jusqu'en avril.
Hein. Oui, officiellement, l'hiver, c'est,
oui,
c'est
dure 21. Nous, en opération, c'est à peu près jusqu'au 15 avril, en fait, on peut avoir des opérations. Et donc, l'essentiel, en général, du cœur de l'activité hivernale, c'est quand même janvier-février.
Et alors, à chaque fois qu'il y a un épisode comme celui-là, évidemment, les critiques pleuvent sur le thème « les aéroports ne sont pas suffisamment équipés ». C'est quoi? C'est une histoire d'adéquation entre le nombre de jours où on peut avoir besoin de dégivrer le sol, les ailes et l'argent qu'on dépense pour avoir tant de camions, tant de produits?
Alors, pour Groupe ADP, c'est pas du tout un sujet d'adéquation. Pour nous, c'est au contraire une fierté que d'avoir des moyens qui nous permettent de ne pas fermer nos aéroports.
Ouais. Sauf que ça arrive.
Non, justement, c'est-à-dire que sur les derniers grands hivers, et on en a connu encore un très fort l'hiver dernier, la fierté de Groupe ADP, justement, c'est que ni Orly ni Charles de Gaulle n'ont fermé, alors que nos comparables en Europe, ça leur est arrivé de fermer.
Mmh. Donc vous avez mis en place les moyens, c'est quoi d'ailleurs? Il y a des produits spécifiques, comment on dégive le sol quand il y a des pluies verglaçantes? Il y a eu un épisode de pluies verglaçantes il y a quelques jours.
Alors c'est plusieurs milliers de salariés qui sont engagés dans ces opérations. Pour Charles de Gaulle, c'est 1250 salariés, c'est beaucoup de moyens, c'est des camions justement qui vont mettre sur le sol des produits qui vont faire fondre la glace. Et qu'on peut soit épandre préventivement avant un épisode, ou soit quand on est face à un épisode neigeux qui peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, eh bien, les équipes vont se relayer constamment, toutes les 12 heures, pour assurer la permanence des opérations et permettre que les plateformes restent ouvertes.
Alors, autre surprise, dans un aéroport, il y a de la faune, il y a des animaux, il y a des animaux qui ont pris leur quartier à Roissy.
Et à Orly, d'ailleurs.
Et à Orly. Mmh. Est-ce que les oiseaux, c'est dangereux pour les avions?
Alors les oiseaux, c'est dangereux pour les avions. Oui, c'est pas bon de les retrouver sur les pistes. Un oiseau qui rencontre un avion, ça fait pas forcément, une belle rencontre parce que ça peut éventuellement être ingéré par un réacteur. Et ça peut le casser. On a connu ça sur le Hudson. On a vu un A320 qui s'était posé comme ça. Et donc, une de nos missions, ça va être justement de se prémunir de ce type de situation. Et on a des salariés de l'aéroport qui vont rester là pendant toute la durée des opérations à, le cas échéant, effaroucher, enfin, faire fuir les oiseaux.
Comme des épouvantails vivants.
Alors, ils ont à leur main plusieurs types de moyens. Ça peut être des bruits d'oiseaux, par exemple, notamment de prédateurs qui vont faire fuir les oiseaux. Et en fait, le cas échéant, ils peuvent aussi déclencher des fusées éclairantes ou qui vont faire du bruit pour les effaroucher.
Bon, on a encore une question à vous poser, parce que la réponse sur le trèfle. On n'a pas eu la réponse sur le trèfle à quatre feuilles. Mais on l'aura dans un instant, c'est promis, les curieux sur RTL. Et puis juste après, le destin de Vidocq, un bagnard qui devient premier flic de France. À tout de suite sur RTL.
Votre attention, s'il vous plaît. Dernier appel pour le vol Air Curiosité, numéro 181-218. Je répète, dernier appel pour le vol Air Curiosité.
Donc, je vais me faire embaucher comme épouvantail pour faire fuir les oiseaux sur les pistes d'aéroports parisiens grâce à mon magnifique pull de Noël offert par Anaïs Bouton que vous pouvez voir sur RTL.fr. Et Amandine Lemaire, qui travaille avec Flavie dans l'émission On est fait pour s'entendre, va vous servir de voix parce qu'elle a une voix magnifique pour faire les annonces dans les aéroports. Entre autres, elle a beaucoup d'autres talents. Amandine, on vous emmène dans les coulisses des aéroports parisiens, mais ce qu'on raconte vaut évidemment pour beaucoup d'autres aéroports. Tiens, notamment cette histoire de trèfle à trois ou à quatre feuilles. Pourquoi ils vous portent pas chance, les trèfles à quatre feuilles ?
En fait, on a un certain nombre de plantes en fait, qui sont particulièrement appréciées des animaux qu'on peut retrouver sur les pistes, et notamment les lapins, les oiseaux. Et donc, on va veiller à justement ce que ces plantes-là ne prolifèrent pas, parce que derrière, ça veut dire qu'on va attirer des oiseaux. Et comme on se l'a dit tout à l'heure, les oiseaux, on les aime bien, mais on les aime moins sur nos pistes.
Donc, pas de trèfle à quatre feuilles pour éviter les pigeons et les lapins, c'est à peu près ça.
Oui, on a d'autres plantes, notamment la vesse, que les pigeons aiment particulièrement. C'est une plante dont ils se gorgent, en fait, ça les saoule. Mmh. Et donc, du coup, après, ils viennent.
C'est encore pire.
Voilà, c'est encore pire. On n'arrive plus à les contrôler. Donc, du coup, c'est un danger pour nous.
Tiens, dernière petite question, pas sur les passagers qui sont trop alcoolisés, même si j'imagine que c'est un vrai souci pour les compagnies, mais plutôt les gens qui ont la peur de l'avion. Est-ce que vous parliez des services d'urgence médicaux, Perrine, est-ce qu'il y a des psys d'urgence, en quelque sorte, des gens qui sont prêts à intervenir pour rassurer un passager?
Oui, dans nos services médicaux, on a des gens qui sont formés à ça. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on fait beaucoup d'interventions d'aide à personne, des gens qui se sentent pas bien avant de prendre l'avion, qui font des malaises, etc. Et souvent, on se rend compte que c'est aussi des gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'évacuer leur stress. Et donc, on a des personnels qui sont formés pour ça.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux.
Merci.
Vous partez dans vos aéroports. La période des fêtes, c'est chargé. Vous prenez des vacances quand même, là?
Oui.
Ah, bon, on est rassurés. Alors, bonnes vacances à vous aussi.
Merci à vous.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.